Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Cinébrunch, l'émission qui n'a pas peur d'aller cueillir son popcorn dans les arbres lors de la saison des pommes. Je suis Louis Laramé, accompagné comme toujours de mes co-animateurs Jim Boulay.
Hello.
Et Mélina Lopez-Nadeau.
Bonjour.
Chers auditeurs, auditrices, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ou une bonne nouvelle, dépendamment comment vous filez de mon extraordinaire voix de baryton. Je dois malheureusement quitter la production de Cinébrunch. Des nouvelles terribles m'attendent d'ailleurs et je dois aller lutter dans le monde des licornes pour essayer de récupérer la princesse qui s'est malheureusement fait...
Ça s'appelle Twilight Sparkle, je pense.
Kidnapper dans un autre château.
On va toujours se souvenir, Louis, de ta participation à Cinébrunch et de ton amour pour Twilight Sparkle.
Oui. Et Applejack. Pour ceux et celles qui viennent tout juste de nous joindre, j'ai déjà fait la critique de Mon Petit Poney, le film, et j'en suis ressorti brisé.
Oui.
Mais trêve de plaisanterie et passons aux nouvelles de la semaine. Jim, as-tu quelque chose à me dire?
Absolument. Deux nouvelles, en fait, qui concernent toutes deux la série Netflix Stranger Things que vous avez sans doute vue. Donc, première nouvelle, très potin pour vous. Donc, David Harbour, qui est l'acteur qui joue le shérif Jim Hopper dans la série Netflix, donc Stranger Things, ben, il vient de marier une fan de la série Stranger Things. Attention, je vais reformuler ce que je viens de dire. C'est pas lui qui se marie. Il a marié, donc officié, une cérémonie de mariage d'une fan de la série Stranger Things qui lui avait demandé sur Twitter de le faire. Sur la photo de mariage qui est disponible sur Internet, on le voit. Donc, en uniforme de policier, de shérif de Stranger Things, de son personnage Jim Hopper. Il avait donc promis que si la demande faite sur Twitter était retweetée 125 000 fois, il le ferait. Et donc voilà, ça c'est fait.
Oh, c'est le fun, ça.
C'est quand même amusant. Une autre nouvelle qui concerne Stranger Things, un petit peu moins glorieuse celle-là. Donc ça concerne Millie Bobby Brown, donc la jeune actrice de 14 ans qui joue le rôle de Eleven, donc dans la série culte. Elle a fermé,
Est-ce qu'on peut parler de série culte?
Je pense que oui.
Quand ça fait moins de 3 ans, 2 ans que c'est sorti, je pense que...
Je pense qu'on est rendu là, oui.
C'est très populaire. Je refuse l'appellation
dans
culte.
La future série culte Stranger Things. Donc, elle, de son côté, a fermé son compte Twitter. Malheureusement, après avoir eu trop d'intimidation et de commentaires désobligeants, entre autres homophobes, donc elle ne se cache pas pour autant sur d'autres plateformes, dont Instagram, où elle reste très active et recommande aux gens, donc dans différentes discussions, de ne pas donner d'importance à ce genre de messages haineux ou quoi que ce soit, et donc des messages de courage de sa part. Alors voilà, ça concerne mes nouvelles de la semaine sur Stranger Things, la future série culte, Louis.
La future série culte, je trouve que c'est d'étirer l'élastique de dire future série culte. Mais je vais également continuer dans la grande liste des nouvelles qui ont rapport à Netflix d'une manière ou d'une autre, parce que Netflix va produire un film qui est réalisé par... le directeur de la série de films The Raid, Gareth Evans. Gareth Evans qui avait dirigé la série The Raid, qui était une série de films d'origine malaisienne, où est-ce que je ne peux arrêter d'en parler parce que c'était les meilleures scènes de combat que j'ai vues de vie. En partant film malaisien, il fallait vraiment que je sois parti loin, mais vraiment, là.
Mais tu m'as parlé quelques fois de série de films malaisiens, là, effectivement.
C'est extraordinaire. C'est Dan Steven qui est surtout connu pour Downton Abbey et Légion, qui joue le rôle principal. Le film se nomme The Apostle, l'apôtre, et c'est une espèce de truc d'horreur, action, d'époque, c'est-à-dire qu'une jeune femme se fait kidnapper, son père va essayer de la récupérer, mais elle a été kidnappée par un culte qui vit sur une île brumeuse au milieu de nulle part, et la bande-annonce vient d'être sortie, le film est annoncé pour le 12 octobre. La bande-annonce est vraiment terriblement gore, prenante et extraordinaire. Là, on voit entre autres un vilebrequin posé à quelques pouces du crâne de quelqu'un qui comme va s'y enfoncer dans quelques instants. On voit des scènes de combat qui ont l'air incroyable, mais surtout l'atmosphère a l'air lourde, pesante et très prenante. Donc, j'en ai le poil de bras relevé.
Eh bien.
Mélina, as-tu quelque chose à nous raconter?
J'ai plusieurs choses à vous raconter. J'aimerais bien revenir sur un sujet de la semaine dernière. On parlait du confort des céréales. Donc, il y a plusieurs auditeurs qui m'ont écrit pour me demander c'était quoi ma technique.
Non.
Je te taquine.
Auditeur, auditrice, personne n'a écrit à ce sujet-là. Peut-être que les parents de quelqu'un dans l'émission ont dit quelque chose, mais c'est le plus loin que ça va aller.
Donc, je fais des blagues. En fait, vous savez, la semaine dernière, la fin de semaine dernière, c'était le 33e gala des prix Gémeaux, donc qui récompense notre talent québécois. Et ce que j'avais simplement envie de mentionner, Plan B a gagné la meilleure série dramatique et la charmante Magali Lépine-Blondeau a gagné le meilleur premier rôle féminin dans une série dramatique. Donc voilà, très contente pour eux. Pour elle, c'est bien mérité. Effectivement. Et le prix du public a été décerné à District 31, une émission que moi et Jim et moi, devrais-je dire, nous affectionnons particulièrement. Et donc,
encore une fois avec Magali Lépine-Blondeau durant certaines saisons.
Durant la première saison. Et donc voilà. Et sinon, on a meilleure série dramatique annuelle qui a été remportée par Unité 9. Donc voilà.
Que nous n'écoutons pas, personne ici.
Non, mais j'aimais bien. Écoutez, on est des fans de Plan B. Si vous n'avez pas vu cette série-là, je vous encourage encore une fois à le voir. On a annoncé une deuxième saison qui va être sur les ondes de Radio-Canada cette fois-ci et qui va être avec des acteurs complètement différents. Donc on reprend le concept, mais avec une autre histoire. Donc pour ma part, j'ai très hâte de voir ça.
Oui.
Et je suis bien contente que Plan B ait gagné dans sa catégorie.
De toute façon, tout le monde le sait, la télévision, c'est pour les gens qui possèdent un téléviseur.
Merci de cette intervention fort pertinente. Oui.
Non, mais je sais aussi pourquoi j'écoutais pas Unité 9. T'sais, principalement, je n'écoute pas de télévision parce que je ne possède pas de téléviseur.
Oui, il y a quand même tout.tv qui existe.
C'est ça, téléviseur.
Ça n'existe pas.
Et Calvin, ça n'existe pas. OK. Donc, Mélina, cette semaine, tu as été voir un film qui parlait d'une Madame Verte.
Exactement.
Qui parlait d'une école qui avait rapport avec des livres. Ou peut-être la librairie GGC. Mais en ce cas, ça s'appelait la librairie de Mademoiselle Green.
Exactement. En fait, le film, c'est un peu une refonte des Schtroumpfs, mais les personnages sont verts cette fois-ci. Donc, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la librairie de Mademoiselle Green. On trêve de plaisanterie parce que ça a l'air que mes blagues
non,
tombent
en fait,
à plat.
Je me disais tout à l'heure, quand Louis a fait son intro, que c'était, après son départ, une des choses pour laquelle je vais pas m'ennuyer. Mais là, tu viens de rajouter des choses qui font que finalement, c'était pas si pire, sa blague d'intro. Fait que c'est ça.
Voilà, Louis, je te donne pour ta dernière émission. Quand même, j'essaie de te rehausser aux yeux de Jim. Parce que tout le monde sait que c'est les yeux de Jim qui comptent ici.
Ouais. Non, mais me rehausser aux yeux de Jim en te descendant au niveau du sous-sol 3, c'est pas nécessairement une idée extraordinaire. Là. Comme je pense que l'émission devrait toujours viser plus haut, viser plus loin. Sous-sol.
Ce qui m'amène à une chanson.
Oui, un peu plus haut, un peu plus loin. Il y a vraiment de trouver une manière d'aller là. Mais... trêve de plaisanterie. En fait, Mélina, tu voulais me dire les Schtroumpfs.
Les Schtroumpfs, oui. Donc voilà, non, en fait, ça n'a pas du tout rapport avec ces petites créatures bleues. Le film que j'ai vu, La librairie de Mademoiselle Green, c'est tiré d'un roman de Penelope Fitzgerald. Le titre anglais, c'est The Bookshop. Et on va aller tout de suite écouter la bande-annonce.
On ne peut pas s'occuper d'un magasin toute seule. Personne dans ce village ne viendra vous aider.
Tu m'as l'air encore très jeune. Et physiquement, tu n'aurais pas la force.
Vous faites plutôt vieille, mais pas forte du tout.
Chère madame, personne n'a eu assez de courage pour oser à nouveau vendre des livres dans ce recoin du monde.
Mon tout premier client, il préserve jalousement sa vie privée depuis le tragique décès de son épouse adorée.
Donc, vous venez d'entendre la bande-annonce du film La librairie de Mademoiselle Green, donc de Bookshop. C'est un film réalisé et scénarisé par l'Espagnole Isabel Coixet. Donc, et comme je le disais auparavant, c'est adapté d'un roman de Penelope Fitzgerald. Donc, un petit résumé rapidement, ça se déroule en Angleterre en 1959 et c'est l'histoire de Florence Green qui est nouvellement arrivée dans la petite ville endormie de Hartborough qui risque tout ce qu'elle a pour ouvrir une librairie. Donc, ça suscite des contestations, de la jalousie, mais elle lutte, en fait, pour établir sa librairie. mais en exposant la population locale à la meilleure littérature de l'époque, elle provoque un réveil culturel sans précédent dans toute la ville. Donc, on entend beaucoup parler du roman Lolita de Nabokov, ce qui va provoquer dans la ville plusieurs réactions. Donc, c'est un peu ça le résumé du film. Elle va lutter pour garder sa librairie et les gens du village vont essayer de la faire partir, en fait, tristement. Donc, au niveau des acteurs, le rôle principal est tenu par Emily Mortimer. J'ai vraiment trouvé qu'elle faisait un très beau travail dans son interprétation. Elle est très crédible, mais surtout, j'ai vraiment apprécié les nuances dans son jeu d'actrice. C'était vraiment bien fait, ça venait vraiment donner une profondeur au film. Sinon, c'est un beau film, on va se le dire là au niveau visuel. C'est des beaux paysages, des beaux plans de l'Angleterre avec la très belle musique classique. C'est très, très poétique, donc c'est pour ça que les nuances dans son jeu viennent vraiment donner encore plus une profondeur au film. Le contre-coup de tout ça, c'est que des fois, ça devient un peu long. Donc, c'est pas un film d'action, on s'entend, mais des fois, bon, on peut peut-être s'assoupir durant quelques minutes, mais c'est très agréable à regarder. L'histoire est belle, c'est bien raconté et c'est surtout très fidèle au livre, peut-être même un peu trop fidèle au livre. Mais bon, comme je disais, la musique est super belle, c'est un bon film, mais je le recommande pas nécessairement à tout le monde. Il faut aimer ce type de film-là en général.
Sinon, on va s'assoupir pendant le film.
Exactement. Exactement. Donc, ça reste que c'est une très belle période de l'année pour voir ce genre de film-là. La semaine passée, on vous présentait nos films d'automne favoris. Ce film-là, pour moi, rentre définitivement dans la catégorie des films d'automne, même si ça se passe pas nécessairement en automne ou qu'on parle pas de rentrée scolaire. La poésie des paysages de l'Angleterre, des tasses de thé de cette époque, ça se passe en 1960, donc je vous le rappelle, où les gens vont, bon, tu sais ça, dans des réceptions chez des gens, c'est très anglais, en fait, puisque ça se passe en Angleterre. J'ai trouvé ça très poétique. Ça m'a vraiment mis en paix avec la journée que je passais. Donc, c'est un bon film pour ces choses-là. C'est pas le film de l'année, on va se le dire. Il manquait peut-être il manquait un peu de piquant ou de choses qui suscitent l'intérêt vraiment au long du film.
Il manquait de plaisir, finalement.
Oui, c'est ça.
Un petit peu.
Mais c'est ça, ça a l'air un peu, pas contemplatif, mais un peu...
Un peu contemplatif, ouais, on va se le dire. Sinon, ben, comme je le disais, si vous avez lu le livre, je pense que c'est une très belle... C'est un très beau travail qui a été fait d'adapter le scénario. C'est peut-être même un peu trop fidèle au livre. On aurait peut-être même avoir quelques éléments de piquant ou de surprise. Mais bon, ça reste quand même un très beau film. Donc, pour ce film-là, j'irai avec la note de 7 sur 10. Ce n'est pas nécessairement un film que je reverrai ou que je conseillerais à tout le monde. Mais si vous aimez ce genre de film un peu contemplatif, très poétique, et que vous voulez voir une super performance d'Emily Mortimer qui est tout en nuances, tout en profondeur, c'est un bon film à voir. C'est une bonne période de l'année pour voir ce film-là. Donc, La librairie de Mademoiselle Green, de Bookshop. Et, fin intéressant, La maison du cinéma le présente en version française, mais également en version anglaise, mais avec des sous-titres français.
Ah, d'accord.
Donc,
accessible quand même.
Accessible, oui, c'est ça. Et très charmant d'entendre cet accent british, comme on dit.
Bon.
Ça donne tout son charme au film, selon moi.
Eh bien, merci.
Merci beaucoup, Mélina.
Merci.
Auditeur, auditrice, j'ai une deuxième mauvaise nouvelle à vous annoncer. J'ai été voir un film cette semaine, Le Prédateur.
Oui.
Et je me suis payé un luxe que je m'étais pas payé depuis le début de l'enregistrement de cette émission. J'ai accepté de commettre un geste qui allait changer irrémédiablement mon appréciation du film.
Tu l'as vu en français?
Non, ça je l'ai déjà fait, entre autres, mon petit poney était seulement disponible en français. Non, c'était quelque chose que je rêvais de faire lors de l'écoute de certains films, entre autres Trip à 3 et Un justicier dans la ville.
T'es parti pendant le film?
Je suis parti.
T'es pas sérieux?
Après une heure d'écoute de ce calvince de navet. C'était... pas écoutable.
Maintenant, tu sais ce que j'ai vécu dans Guardians of the Galaxy.
Ça, Jim, c'est que t'as des problèmes de santé. C'est pas pareil. Comme tout le monde aime Guardians of the Galaxy, c'est le film qui a les meilleurs codes du public de l'univers Marvel en ce moment.
Écoute, c'est ça en dit long sur une étude sociologique que je ne nommerai pas. Mais oui. Fait que c'était pas écoutable.
Ah, c'était pourri. C'était, bon, on va mettre un peu de contexte, hein. on va se donner une chance. Ben, c'était le Prédateur, j'ai déjà dit.
Ah, ok.
Prédateur qui est théoriquement... Moi, j'étais pas sûr. J'étais comme curieux de savoir est-ce que c'est une suite, est-ce que c'est un reboot, parce que les reboots de franchises de sci-fi des années 80-90 sont rendus populaires. On pense entre autres à Robocop, Total Recall, Ghostbusters. Mais non, c'est une suite directe de Prédateur 3. Je pense que ça prend pas en compte Predator versus Alien, parce qu'en même temps, Predator versus Alien... Écoute, je vais, on va se donner une chance. On va écouter la bande-annonce.
Voilà.
Parlez-moi de la mission. Avez-vous vu quoi que ce soit d'inhabituel?
Ça, c'est au-dessus de nos fonctions.
Alors, j'ai gagné une sucette?
J'ai bien compris. Il s'est passé un truc au Mexique... Et il faut pas de témoins gênants.
On doit savoir si vous et vos hommes représentez un danger.
On est des Rangers.
Hey Baxley, si la chatte de ta mère était un jeu vidéo, je te parie qu'elle serait classée tout public.
Qu'on représente un danger.
Ça serait pas un petit peu l'idée?
Est-ce que c'est American Pie meet...
Le Prédateur.
Le Prédateur.
OK, on va expliquer un peu le contexte puis cette blague-là. D'ailleurs, il y en a une couple d'excellentes. Juste pour qu'on soit clair, la blague qu'on entendait qui était de vraiment mauvais goût était racontée par Keegan Michael Key, c'est-à-dire 50% de Key & Peele, qui était un groupe d'humour américain très populaire. Peele a fait, entre autres, Get Out comme réalisateur l'année dernière, qui était extraordinaire. Keegan-Michael a fait surtout des films comme acteur. Moi, je m'attendais pas à ça, parce que ça reste un... Je l'ai connu comme humoriste, mais c'est un excellent comédien quand il se donne. C'est juste que là, on lui a donné le pire texte ever.
Ouais.
Donc, un extraterrestre s'écrase sur la Terre. Un membre d'un commando spécial le trouve et lui vole quelques pièces d'équipement, les envoyant à sa famille. Son fils adolescent au talent particulier... OK, comprendre ici, ça fait partie des raisons pourquoi j'ai sacré mon camp. Son fils au talent particulier, là, c'est un enfant de 12 ans qui est atteint d'Asperger. Et comme de fait, dans la logique des films, Asperger veut dire « génie ». Complètement ridiculement au-delà de tout ce que tu peux imaginer comme intelligence. On a une scène qui explique son personnage très rapidement dans le film où deux jeunes garçons qui intimident partent la lampe d'incendie et donc le groupe d'échecs dans lequel ils participent s'en va. Les deux intimidateurs rentrent dans la pièce et voyant tous les morceaux d'échecs et lui au fond, font des blagues sur le fait que « Haha, Asperger » et garochent tous les morceaux des jeux d'échecs par terre. Et là, on voit le jeune garçon, Rory, se lever et, de mémoire, replacer toutes les pièces des jeux d'échecs, des six boards qui sont disponibles dans la pièce et s'en aller comme si de rien n'était. Parce qu'évidemment que être atteint d'Asperger, c'est nécessairement être comme cette espèce de génie incroyable. En tout cas, ça partait déjà pas en force pour moi.
Mais c'est quoi son... C'est parce que tu dis qu'il y a une spécialisation, il y a un champ d'expertise vraiment puissant.
Non, il est juste vraiment bon avec les puzzles. Okay. Une mémoire extraordinaire. Bref, c'est le Deus Ex Machina parfait. Là. Comme c'est un petit enfant qui a juste regardé un gadget d'une race qui lui est complètement inconnue. Le comprendre, l'analyser et le faire fonctionner de la manière dont il veut sans même avoir des bases rudimentaires de quoi que ce soit comme éducation autre qu'une éducation secondaire de base.
Ah, c'est pratique ça, j'aimerais bien en avoir un.
Je pense qu'on aimerait tous avoir notre jeune Rory disponible. Donc c'est ça, arrêté par les autorités gouvernementales, papa arrive à s'échapper en compagnie d'anciens soldats un peu fêlés. Deuxième ding, on a entre autres un type qui souffre du syndrome de la Tourette. Fait que comme de raison, il crie des insanités à toutes les deux minutes, est incapable de contrôler sa colère. Les blagues qu'on entendait de Keegan-Michael Key à propos de sa mère, c'était au personnage qui souffrait du syndrome de Tourette qui faisait ça. Et c'est comme une espèce de « Ah ah ah! » comme « j'écœure ta mère, tu te mets à sacrer, tu te mets à dire des choses vulgaires. » Et t'essayes de me tuer. C'était pas, y a pas de subtilité, y a pas rien. C'est utiliser une condition mentale de manière humoristique pour le plaisir de la chose. Mais tous ces gens-là dans le groupe sont 5 soldats, dans le fond, avec qui ils se ramassent. Il y en a un qui est un espèce de fou de Dieu, mais qui, en même temps, a des impulsions super violentes de vengeance. Il y en a un qui est en permanence suicidaire. Il y en a un qui fait des tours de cartes parce qu'il a l'impression d'avoir disparu pendant les combats qu'il a fait en Afghanistan. Bref, c'est 5 déréglés qui sont à la fois des soldats un peu too much, mais aussi des gens qui ont des problèmes dans la vie, qui se ramassent à devoir faire alliance avec une scientifique qui est jouée par Olivia Munn, qui essaie de comprendre les liens et le descendre. OK. Pourquoi est-ce que j'ai sacré mon camp après une heure plutôt que de toffer les 1h40? C'est que, un, il n'y avait rien de crédible dans la chimie des personnages. Comme il n'y avait rien qui me faisait croire que ces personnages-là auraient dû fonctionner ensemble. Tout poussait même à croire qu'ils allaient se tuer entre eux autres avant la fin du film. Puis c'était le fun, parce qu'il y avait tout accès à des armes à feu pour pouvoir le faire. Ah oui, d'ailleurs, parlant d'armes à feu... Tu sais, moi, un film, j'aime ça que ça allait comme une histoire, ou à tout le moins qu'il fasse semblant. Je veux dire, j'aime Rapide et dangereux, puis c'est un peu lousse sur ce que c'est qu'une histoire. Là, il n'y en a pas. Là, il y a un prédateur qui débarque, il essaie de faire quelque chose, il tue du monde en chemin. On essaie donc de tirer des balles dessus. Ça marche pas. À un moment donné, il y a des chiens prédateurs. Ça, c'est comme drôle. Mais... Ah oui, puis à un moment donné, il y a un deuxième prédateur qui arrive. Mais comme, au lieu de faire 7 pieds puis avoir une armure indestructible, il en fait 11 puis il est juste trop badass pour pouvoir être descendu de manière conventionnelle. Parce que. D'ailleurs, beaucoup de choses peuvent être résumées dans ce film-là. Parce que. Pourquoi est-ce que le soldat qui a réussi à voir le prédateur en premier lieu n'est pas envoyé directement dans le projet de recherche ultra secret pour amener son expertise sur sa rencontre?
Parce que.
Pourquoi est-ce que la scientifique qui vient tout juste d'arriver, qu'on a été chercher parce qu'elle a connaissance spécifique, comprend automatiquement des choses qu'une équipe de scientifiques de plus de 60 personnes n'ont pas compris? Parce que.
Voilà.
Pourquoi est-ce que le chien, le pitbull, qui au début, quand il jappe, donne des espèces de migraines intenses au jeune Rory, soudainement arrive et défend Rory. Rory n'a plus peur du chien et fait de CGI? Parce que. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'avoir un setup de presque une heure à propos d'un petit alien qui était un traître pour que finalement il y ait quelque chose de vraiment anticlimatique qui arrive et que ce soit un peu plate? J'ai été lire sur Wikipédia, merci Wikipédia, qu'est-ce qui se passait à la fin du film. J'ai lu ça, j'ai fait ah oui, il se passe rien de bon. Fait que, mais j'ai eu plus de plaisir à lire la description sur Wikipédia qu'à écouter une heure du film. Fait à considérer d'aller voir la description du film. C'est pas mauvais en tant que tel. Là. Je veux dire, il y a des scènes d'action intéressantes.
Ouais.
C'est très sombre.
Okay.
J'ai une préférence pour les scènes d'action un peu plus longues où ce qu'on peut voir vraiment les plans de caméra. C'est pas ce qui est populaire dans les films d'action autre chose. Là, c'est sci-fi action, fait qu'ils se permettent de faire des trucs un peu courts. Il n'y a pas de sang humain, il y a beaucoup de sang prédateur, donc vert fluo qui n'a pas l'air réel. C'est très drôle parce que ils ont vraiment resté sur... C'est une suite. Donc, ils ont vraiment resté sur qu'est-ce que le prédateur depuis 87, quand le premier est sorti. Et c'est une apparence qui date. Je veux dire, le prédateur a l'air beaucoup de sortir des années 80 comme créature de sci-fi. Alors qu'Alien a au moins essayé d'améliorer un peu le look pour que ça ait l'air moins dramatiquement les années 80. Les personnages... Ouais, non, il n'y avait rien de bon. J'en ai un 3 sur 10 parce que j'ai ri un peu à comme une scène.
T'as ri parce qu'il était tellement absurde puis il est pas drôle, ou t'as ri parce qu'il y a la joke
Il y a comme une scène dans un autobus avec justement Michael Keegan qui fait une coupe de blagues là qui sont drôles.
Écoute, moi Louis, je vais te dire un truc. Tu nous as dit un jour que t'aimais pas les comédies. Moi, je te dirais, si tu donnes 3 points pour une blague dans un film, je te recommande de commencer à regarder des comédies françaises. Tu vas certainement être surpris par les notes que tu vas donner. Voilà.
Dans le négatif?
Non, non.
3 points par blague, quand même.
C'est bien,
ça monte vite.
Ouais, mais Trip à 3 aussi, il y avait au moins une blague que j'ai ri. C'est juste que je n'étais pas supposé rire. Ah, j'ai quand même donné moins 3. Fait que non.
C'est... Fait que ça passe vraiment pas. Mais c'est dommage parce que je trouvais que la bande-annonce, à part les jokes un peu malaisantes, ça avait l'air quand même plus intéressant que ce que je me serais attendu pour un film comme ça. Je me suis questionné à un moment donné. Ah, oh, je vais-tu le voir juste par principe? C'est la suite des vieux films, tout ça. J'ai bien fait.
Ouais, parce que les films vivaient et mouraient sur l'espèce d'ambiance, d'atmosphère, la violence gratuite, les sacres. Là, il n'y a rien de ça. L'atmosphère est toujours changeante. Il n'y a jamais rien qui reste. On est supposé être l'Halloween, fait que c'est comme effrayant, mais ça se passe pas vraiment. C'est pas poussé plus qu'il faut. En fait, même à un certain point, on voit, tu sais, les masques de prédateurs, le truc vraiment iconique qui a l'air effrayant.
Oui.
Tapé sur le visage d'un enfant de 11 ans.
Mm. Comme stratégie.
Comme masque pour se déguiser.
Mm.
Fait qu'en plus, c'est méta.
Ouais.
Ça, c'est toujours malaisant, ça.
Ouais, fait que c'était pas bon. 3 sur 10. Je suis un peu déçu. J'aurais aimé ça, mais j'ai pas aimé ça. Fait que...
C'est des choses qui arrivent.
Voilà. Ben écoute, c'est des choses qui arrivent, comme tu dis. C'est dommage que ton dernier film à Cinébrunch, que ça a été de ce niveau, mais quand même.
Oui, mais c'est pas grave.
Tu as pu au moins partir en plein milieu d'un film.
Oui, mais honnêtement, c'était ça. Parce
première
que
expérience.
Il y a des fois où je me suis posé la question de le faire. Est-ce que vraiment je dois rester voir l'entièreté d'un Justicier dans la ville? En fait, le Justicier dans la ville, je voulais rester au complet parce que je me demandais s'il allait avoir des qualités rédemptrices. Finalement, c'était pire que le début. J'ai voulu quitter Trip à 3, mais on était là les trois. Fait que j'aurais eu la tweet de quitter pendant que vous me regardiez.
Effectivement.
Mais non. Non, là, je me suis permis. J'ai fait... Je refuse. J'ai protesté.
Mais dis-moi, Louis, est-ce que c'était libérateur de quitter le film pendant que tu ne l'appréciais pas? Est-ce qu'il y a quelque chose de libérateur associé à ça?
Oui.
Oui,
oui, je pense qu'éventuellement, j'aimerais proposer comme sujet éventuel, quitte à m'inviter pour un segment spécial, l'éthique de quitter avant la fin d'un film. Par contre, Jim, Guardian of the Galaxy, ne mérite pas d'être quitté avant la fin.
On en parlera à cette apparition de Louis sur le sujet.
Je pense que je vais éventuellement trouver manière de te garder ainsi sur un siège pour l'entièreté du film.
Alors, amène-toi beaucoup de napkins.
Non, mais on va peut-être utiliser des pots de vin. Peut-être des littérales pots de vin que je vais couler le long de ta gorge. Je ne sais pas encore.
Ben, c'est merveilleux.
Yes. Fait que
merci,
ça,
Louis.
Ça. Hey, merci. Donc, de retour à Cinébrunch, en cette deuxième demi-heure, on m'a demandé de vous offrir mes états d'âme et faire une critique de mon film favori de tous les temps. Mais avant ça, Jim a été voir un film à propos de la mafia, ou en fait, un film à propos de la politique.
Écoute, je suis confus, mais aucune de ces réponses.
Ben, c'est une
un peu de sexualité,
faveur.
Mais très peu. Ah, une petite faveur. Mais oui, c'est ça exactement. C'est effectivement le titre du film. Mais non, ce n'est pas un film de mafieux. Cela dit, c'est un drame policier américain, produit, coécrit et réalisé par Paul Feig. Un casting assez intéressant. On a Anna Kendrick et Blake Lively, qui, sont particulièrement agréables à voir dans ce film. Si vous avez vu la bande-annonce de ce film-là, vous avez sûrement remarqué l'incroyable travail de montage et d'infographie qui l'accompagne. Voici donc un extrait audio de la bande-annonce.
Il y a quelques semaines, j'ai rencontré Emily. C'est une femme merveilleuse et tellement raffinée. On a fait connaissance grâce à nos fils.
T'as pris ma photo ? Efface-la.
J'imagine que t'es pas habitué d'avoir des amis comme moi.
Oh, tu veux surtout pas être mon amie. Crois-moi.
Stéphanie ?
Il faut que tu m'aides.
Oui, tout va bien ?
Oui, ça va, mais j'ai besoin d'une petite faveur. Tu viens me voir ?
Ouais. Il y a 5 jours, Emily a disparu.
Donc, c'était la bande-annonce d'une petite faveur. Alors... Écoutez, pour être honnête, ça a été quand même assez difficile de critiquer et d'analyser ce film-là.
Tant que ça.
Je pense que quand même, quand on regarde la bande-annonce, on peut pas rester indifférent devant. Ça donne envie de voir le film. Je dirais qu'on va voir dans quelques instants si ça valait ou pas la peine pour moi d'aller voir ce film. Donc, un aperçu de l'histoire, c'est quand même un peu tordu. Donc, Anna Kendrick interprète le rôle de Stéphanie, une jeune mère de famille un peu innocente et timide qui tient un vlog. Elle fait des vidéos de recettes, de bricolage et elle parle de ses états d'âme sur Internet. Un jour, alors qu'elle quitte la petite école de son jeune fils, Stéphanie fait la rencontre d'Emily Nelson, interprétée par Blake Lively. Qui est, entre autres, en fait, la mère d'un autre jeune garçon qui est ami de son petit garçon, donc à Stéphanie. Alors, elle fait sa rencontre, ils se retrouvent à parler, à boire des verres ensemble, et il faut comprendre que Emily Nelson, on la découvre comme une personne qui est diamétralement ou radicalement opposée, tant au niveau de la personnalité que du style vestimentaire, à Stéphanie. Donc, deux opposés. Emily Nelson est grande, est forte, est directe, est sans gêne, elle boit beaucoup d'alcool, elle a un style vestimentaire très branché, que Stéphanie idolâtre grandement. Donc, sa nouvelle amie lui apprend à se tenir debout, tout semble pour le mieux jusqu'à ce que Emily Nelson disparaisse complètement.
Pam, pam, pam.
Voilà. Donc, alors, d'abord, je pense qu'on peut diviser ce film-là en trois sections particulièrement marquées. C'est des sections qui se suivent chronologiquement, c'est avec les mêmes acteurs, la même histoire qui se poursuit, tout comme dans un vrai film, mais chaque section est pourtant radicalement différente les unes des autres, en fait. Parce que, en fait, puis ça surprend énormément, parce que c'est comme si, au lieu de changer l'histoire ou les personnages ou quoi que ce soit, on change le genre de film. Donc, dans la première partie, je dirais peut-être les premiers 40 minutes du film, c'est vraiment léger. On découvre les personnages et Stéphanie, on fait la rencontre de l'étrange Emily Nelson. Ça passe assez vite parce que chaque actrice a vraiment, disons, des traits particuliers, intenses, la personnalité forte. Ça permet de créer des beaux moments, des belles scènes. Mais après ça, Emily Nelson disparaît et là, le film se transforme radicalement en une vraie enquête policière. Donc là, c'est plus vraiment drôle. On découvre avec Stéphanie des affaires pas mal intenses concernant Emily Nelson. Je vais pas trop en dire parce qu'il y a quand même beaucoup d'intrigues dans ce film-là. C'est très, 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 très lourd en intrigue. Et là, on arrive au dénouement du film, qui est en plusieurs phases, mais qui est extrêmement tordu. Donc, j'en parlerai pas parce que ça va gâcher vraiment trop de surprises. Ce film-là a d'importants points tournants au cours du film. Et encore là, la conclusion ou le dénouement est extrêmement différent de tout le reste du film. Et à la toute fin du film, encore un dernier petit changement où on a une chose complètement absurde qui se passe. Mais complètement absurde, qui sort quasiment du genre de film. On tombe dans autre chose. Ça dure pas longtemps, mais on aurait pu prendre ça dans un autre film, le coller à la fin, puis ça aurait été pareil. Donc, tout ça fait que ce film-là est difficile à analyser parce qu'il y a beaucoup de points forts un peu partout. Mais en même temps, la manière dont ça se tient ensemble est très ambitieux et très particulier et à la limite, pas toujours de bon goût, j'ai envie de dire. Donc, toutefois, les deux actrices sont totalement excellentes, sont troublantes. Blake Lively est vraiment sexy, dégage beaucoup de swag. Par contre, au niveau des acteurs de soutien, je dirais que là, c'est beaucoup plus inégal. Donc, petite déception à ce niveau-là. Les acteurs qui ne sont pas principaux ont des rôles un peu particulier, avec des personnalités un peu clichés, un peu... c'est ça. J'ai un petit peu l'impression de tomber dans un autre type de film à ce moment-là. Donc, le film... La musique, en fait, dans ce film-là, est presque entièrement constituée de chansons françaises, ce qui est intéressant pour un film américain. Et parfois un peu dérangeant, je dois admettre, parce qu'on a tendance à écouter les paroles quand on écoute une chanson dans une autre langue. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Et sinon, c'est un film qui est rempli de surprises. Donc, de A à Z, ce film-là est complètement différent de tout ce que j'ai vu avant. On est toujours surpris. On se fait plein de scénarios ou d'idées sur l'intrigue. On essaie de deviner. On ne sait jamais ce qui va arriver. Et au bout du compte, quand on s'attend à quelque chose, c'est jamais ça qui se passe. Mm-hmm. Donc, ça devient tellement dilué de possibilités qu'on finit par se perdre dans nos propres théories mentales. Et ça, c'est quand même particulier. C'est complètement... noyé complètement dans cette espèce d'intrigue-là. Et c'est un peu le problème de ce film-là, j'ai envie de dire. Il y a pas mal d'affaires qu'on pouvait juste pas deviner.
Mm-hmm.
Et on ne nous a pas placé assez d'indices sur certaines choses. Et c'est un peu dommage, parce que ça fait un peu Agatha Christie par moment. Sinon, ce film-là est totalement unique. Vraiment très divertissant, là. Vraiment, vraiment divertissant. C'est pas plate du tout, jamais, même dans les moments d'attente ou les moments... Il y a des tensions dans ce film-là, il y a du suspense, il y a de l'humour, il y a de tout dans ce film-là. très divertissant. Et juste pour le style et l'ambition de ce film-là, je lui donne 8,5 sur 10.
Wow.
Cependant, c'est pas un film conventionnel. Donc, considérez ça en allant le voir. Et je pense que vous allez quand même apprécier l'expérience. Même si, bon, au niveau de la conclusion et tout ça, ça fait pas plaisir à tout le monde. Alors voilà, ce serait ça. Mais franchement, je recommande d'aller voir ce film-là pendant qu'il est au cinéma. C'est un beau film à voir en salle. C'est une excellente réalisation. Alors, 8,5 sur 10.
Ouh, excellent. Merci, Jim.
Oui.
Bon, fait que c'est à mon tour de tenir le micro. C'est moi qui run la patente. C'est
ben
moi
oui,
qui dis ce que je veux. Fait que pour l'occasion, je vais vous parler d'un film qui a marqué ma jeunesse. Un film qui m'a permis, encore aujourd'hui, je l'utilise comme mesure pour savoir comment un film est transformatif pour moi. Je l'utilise aussi comme mesure de comment est-ce qu'un film peut changer ma vie. Ou à tout le moins altérer mes émotions. C'est un film qui d'un directeur qui a une série de films tout aussi traumatisants les uns que les autres. C'est également un film que ça m'a pris 10 fois à être capable de le regarder au complet parce que c'est un film.
Je sais quoi.
Qui, ben oui, je sais. L'histoire a été racontée souvent.
Ouais.
Mais c'est un film dans le fond dont les premiers 30 minutes sont très sombres, très glauques. Puis soudainement ça change de beat complètement, la musique change, l'endroit change et j'étais incapable de faire la transition, c'était trop dramatique comme modification. Je parle bien sûr de Full Metal Jacket par Stanley Kubrick. You are nothing but unorganized grabastic pieces of amphibian shit. You will not like me, but the more you hate me, the more you will learn. This is my rifle. There are many like it, but this one is mine. My rifle is my best friend. Joker, I want you to get straight up to Fubai. Captain January will need all his people. Yes, sir. Yes, sir! Yes, sir! Anyone who runs is a VC. Anyone who stands still is a well-disciplined VC. Oh, ça réussit à être malaisant. C'est même 50 secondes juste de son avec Mrs. Robinson, là, qui est une chanson super cute. Mais non, je me sentais un peu mal à l'aise dans ma chaise.
Quel âge t'avais quand t'as vu le film la première fois?
13 ans, 14 ans.
Ah ouais, quand même.
Non, j'étais pas un âge, j'aurais dû voir ça. Donc, pour ceux qui comprennent pas encore, dans le fond, Stanley Kubrick a réalisé ce film-là, c'est basé sur un livre, Into the Darkness, c'est sorti en 87. Il n'y a pas eu de version française, ça a été sous-titré seulement lors de sortie. C'est un film qui suit la guerre du Vietnam, la préparation de l'entraînement d'un groupe de jeunes marines jusqu'au terrible baptême du feu et la sanglante offensive du Tet à Hue en 68. Ce que c'est, en fait, c'est un film en trois parties. Encore une fois, c'est un classique. La première partie, c'est l'entraînement. C'est-à-dire qu'on voit un groupe de jeunes hommes américains qui sont conscrits, donc qui sont arrivés là à West Point contre leur gré. Ils veulent pas être là. Ils arrivent de milieux complètement différents. Il y en a un qui est un ancien cowboy du Texas. Il y en a un qui est un journaliste de New York. Il y en a un qui est un slacker. Qui se ramasse sous les ordres d'un sergent d'instructeur complètement fou, qui hurle dessus, qui lâche des séries d'insultes plus colorées les unes que les autres. Malheureusement, on est une émission pour tous. Je ne peux donc pas répéter les insultes tellement que ouais. C'est coloré et offensant. Il y a quelque chose à propos de dévisser un coup et faire quelque chose au trou. Mais c'est rien de... C'est vraiment tout Et c'est terrible. Et on voit un peu l'espèce de transformation d'être humain rationnel en espèce de machine à tuer, avec en chemin les erreurs et les problèmes. Entre autres, on suit un des soldats, on suit principalement Joker, qui est un espèce d'ancien journaliste slacker un peu new-yorkais, qui fait des imitations de John Wayne à l'occasion, parce que ça prend ça dans la vie, qui se doit d'aider Private Gomer Pyle, qui est cette espèce de gigantesque créature un peu maladroite, jouée avec brio par Vincent D'Onofrio, qu'on a vu plus récemment comme le Kingpin dans la série Marvel, dans la série Netflix Marvel Daredevil. Mais dans ce film-là, il joue une espèce de grand dadais incapable de vraiment comprendre ce qui lui arrive et qui fait juste manger plus de marde à chaque fois que quelque chose d'autre arrive. Entre autres, il y a une scène magnifique avec un beignet et des gens qui font des pochas. Je veux juste rapidement avoir une régulation de l'émission. Est-ce qu'on considère que je peux divulgâcher un film qui est sorti plus de 30 ans passé?
Je pense que oui.
Parfait. Parce que pourquoi j'ai dû le regarder 10 fois puis que les 9 premières fois, j'ai pas été capable de le rendre, c'est que la finalité de la première partie, c'est-à-dire que une fois leur entraînement fini, ils viennent de recevoir leur poste, il y en a qui s'en vont, justement, Joker sera vraiment journaliste, la plupart s'en vont infanterie, quelques-uns s'en vont artillerie. La nuit d'après, qui est leur dernière nuit sur West Point, qui est donc le dernier moment, Private Gomer Pyle saute un câble. Et dans la salle de bain, avec une arme chargée, fait des manœuvres complètement ridicules, comme s'il était sur un champ de parade. Joker appelle le sergent d'instruction. Le sergent d'instruction ne comprend pas la situation, commence à gueuler. Et là, Gomer Pyle descend le sergent et se suicide. Et ça finit là-dessus. Et là, c'est une scène super glauque. On est dans une salle de bain la nuit. C'est en noir et blanc. C'est presque en noir et blanc tellement que c'est gris. Et là, on recommence comme quelques mois plus tard au Vietnam. Donc, super gros soleil qui joue, de la musique rock qui joue en arrière. On a le Joker sur un hélicoptère avec son photographe. Et ça repart comme ça. Et c'est super dramatique comme changement. Il y a une différence brutale de thème, de genre, de où est-ce qu'on s'en va. Et donc, si t'es pas prêt, si t'es pas préparé à ça, ça fait juste aucun sens. Et là, c'est là où la partie que moi je trouve vraiment intéressante commence. C'est-à-dire que là, on voit le début de la fin pour l'offensive américaine. C'est-à-dire que c'est le moment où l'armée vietnamienne a vraiment réussi à reprendre le dessus. Mais on voit toutes les horreurs de la chose. Là, on voit les espèces de soldats complètement incapables de fonctionner, certains dans des états presque catatoniques, d'autres qui se plongent dans une espèce de violence sans pareil pour essayer de comprendre. On entend la phrase dans la bande-annonce, justement, « get some, everyone, tous ceux qui restent debout sont des Vietnamese conscripts, donc des VC. Tous ceux qui courent, c'est des VC. Tous ceux qui restent debout sont des VC bien disciplinés. » Dans la même scène, il lui pose la question « Mais comment tu fais pour tuer des femmes et des enfants? » Et lui, il répond en riant « C'est facile, moins de plomb. » Et c'est comme une espèce de plongée dans une horreur ensoleillée avec du rock en arrière, des scènes vraiment brutales de... À un certain point... Il y a une scène dans un restaurant, il y a une prostituée qui est là. Mais chaque fois, c'est comme si tu participais à une folie uniformisée. Une folie qui sanctionnée par le gouvernement, sanctionnée par la chaîne de commandement, où est-ce que tout fait du sens parce qu'on est là pour aider, parce que... Puis tu les vois croire à leurs propres mensonges, qui savent que c'est des mensonges parce que eux-mêmes participent à la chose. L'image du boîtier du film, en fait, est une représentation parfaite de ça. C'est-à-dire que on a le casque de Joker où c'est écrit en gros marqueur noir « Born to kill », mais sur son jacket est épinglé un symbole de paix. Puis c'est toujours ça un peu l'espèce de... C'est des humains qui veulent la paix, mais en même temps, ils ont tellement été brainwashed qu'ils sont incapables de faire autre chose que ça. Bref, c'est un film qui est un plaisir incroyable à regarder si on a le cœur solide, parce que c'est un film qui réussit, dans le cadre de 2 heures, à te faire sentir mal, te faire rire, te faire prendre pour les méchants, te faire prendre pour les bons, de plus savoir qui est bon, qui est mauvais, de me faire aimer une chanson de Walt Disney sans que ce soit un film de Disney. Qui utilise... Il y a une scène iconique à la fin, j'en parlerai pas.
Ouais.
Mais c'est vraiment un film qui, pour moi... Je l'ai regardé quand même jeune, j'avais 14 ans. Ça a commencé mon amour des films de Stanley Kubrick, mais ça m'a également fait découvrir un peu c'était quoi du vrai cinéma. C'est-à-dire que, oui, c'est un film d'action, oui, c'est un film de guerre, mais c'est quand même un film qui te force à penser, qui t'oblige à réaliser un peu les thèmes du film plus profond, parce que sinon, c'est vrai que ça fait aucun sens de voir certaines des scènes si t'as pas... un background sur ce qui est en train de se passer. Je l'ai écouté à 13 ans, mais je l'ai réécouté à plusieurs reprises à l'âge adulte. Et c'est un film que je recommande à tous et à toutes parce que vraiment, son pouvoir évocateur est extraordinaire, même encore aujourd'hui, plus de 30 ans après sa sortie.
Eh bien, tu lui donnes combien?
9.5 sur 10.
Wow!
Wow!
C'est
la référence.
À chaque fois que j'ai nommé mon top 3 de films favoris, il est là.
C'est merveilleux.
Voilà.
Au revoir ou à revoir.
Toujours.
Merci beaucoup, Louis.
Mais en même temps, l'œuvre de Stanley Kubrick...
Ouais, pas mal au complet, ouais, effectivement.
Je veux dire, que ce soit L'Orange Mécanique, que ce soit... Moi, j'aime beaucoup, même si c'est un de ses moins aimés, Eyes Wide Shut, parce que Tom Cruise.
Oui, évidemment. C'est pour ça.
Ben oui.
Ouais.
Non. Le charmant.
J'aime bien The Shining. J'aime pas mal l'affaire.
Puis t'aimes pas les films d'horreur pourtant d'habitude.
Et pourtant j'aime pas les films d'horreur, oui, effectivement. Ben c'est un Kubrick, hein, ça paraît. Il y a du stock derrière ce film-là. Ouais. Il est encore analysé aujourd'hui.
Il y a beaucoup de symbolisme en fait
énorme,
dans tous ces trucs.
Énorme, ouais. Quel personnage. Incroyable ce Kubrick. Merci infiniment, Louis.
Merci, Louis.
C'est le moment des sorties cinéma.
Je suis sorti avec...
Le chum de fées. Nanana. Bon, les sorties! La disparition des Lucioles, drame québécois! C'est bientôt l'été, la fin des classes dans une ancienne ville industrielle sur le bord d'une baie, à la fois cul-de-sac et ouverture sur le monde. Léo, une jeune fille dégourdie, marginale et insatisfaite, rencontre Steve, un homme plus âgé, guitariste, solitaire et reclus. Léo vit avec sa mère et son beau-père, un animateur de radio populiste qui a poussé à l'exil dans le Nord l'homme qu'elle admire, son père, le chef du syndicat déchu. Frustré et en colère, c'est dans sa relation équivoque avec Steve, au rythme de leçons de guitare et de son nouveau travail d'été, qu'elle pourra trouver une sorte de réconfort et amorcer sa fuite. Ok, juste à lire la description, ça n'a pas l'air bon. J'ai vu la bande-annonce, je pense qu'il y a quelque chose.
Ben moi, je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant dans le contexte, dans le concept. Le fait du truc de radio qui fait fuir son père, qui, comme il y a matière à quelque chose. Fait que...
À voir, je pense que ça va être à considérer, ça va être sorti hier, fait qu'on va pouvoir aller voir ça demain.
Voilà, exactement.
Fahrenheit 11.9, version...
documentaire.
Fahrenheit 11.9, réalisé par...
Michael Moore.
Ah. Le nouveau documentaire du réalisateur Michael Moore, Fahrenheit 11.9, porte un regard provocateur et cynique sur le monde actuel. Deux questions importantes concernant la présidence de Donald Trump y seront posées. Comment en sommes-nous arrivés là? Et comment allons-nous en sortir? Pour ceux et celles qui sont moins au courant de l'œuvre de M. Moore, il avait réalisé, il y a quelques années... Fahrenheit 9/11 à propos de la présidence de George W. Bush.
Ouais, et Bowling for Columbine.
Bowling for Columbine qui avait été son premier shot au succès, vraiment. Il y avait une couple de trucs d'autres, mais c'est vraiment les trois gros, les deux gros qui ont mis son nom sur la map.
Et sa casquette.
Et sa question de casquette. Gueule d'ange, drame français réalisé par Vanessa Philo. Mettant en vedette, Marion Cotillard, Hélène Exo-Étain, Alban Lenoir, Amélie Doré, Nad Dieu et Stéphane Rideau. Une jeune femme vit seule avec sa fille de 8 ans. Une nuit, après une rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant livré à elle-même. Ça a l'air rock'n'roll en sacrifice. J'ai pas vu la bande-annonce, malheureusement. Un que je n'ai pas vu venir, que j'ai vu une affiche cette semaine et que j'ai fait « Ah ouais? » et qui sort là, Johnny English frappe à nouveau.
Ben, moi j'avais
Johnny
vu,
English
oui.
Strikes Again. France et États-Unis, réalisé par David Kerr, mettant en vedette nul autre que Rowan Atkinson, Olga Kurylenko, Emma Thompson, Jack Lacey, Ben Miller, Miranda Hennessy. Cette nouvelle aventure démarre lorsqu'une cyberattaque révèle l'identité de tous les agents britanniques sous couverture. Johnny English devient alors le dernier espoir des services secrets. Rappelé de sa retraite, il plonge tête la première dans sa mission. Découvrir qui est le génie du piratage qui se cache derrière ses attaques. Avec ses méthodes obsolètes, Johnny English doit relever les défis de la technologie moderne pour assurer la réussite de sa mission.
Mr. Bean Meet 007, again.
C'est comme OSS 117, mais la version britannique. Nation Destruction, version originale de Assassination Nation, américain, réalisé par Sam Levinson, mettant en vedette Odessa Young, Harry Neff, Suki Waterhouse, Abra, Bill Skarsgård, Joel McHale et Bella Thorne. Dans une banlieue sans histoire, quatre adolescentes font l'objet du jour au lendemain d'une attention médiatique quand leurs données personnelles font l'objet d'un piratage. Ça fait trois fois que je lis cette phrase-là dans ma tête et elle ne fait aucun sens. La traduction est de la scrap. Bref, j'ai vu la bande-annonce de ça et ça, ça a l'air bon. C'est comme des adolescents dans une banlieue sans histoire encore, mais non, il y a comme une espèce de setup de violence, de « ouais, non, il y a quelque chose ». La pendule d'Halloween, The House with a Clock in its Walls, horreur américain réalisé par Eli Roth, mettant en vedette Owen Vaccaro, Jack Black, élevé par son oncle Jonathan, un authentique magicien. Lewis a grandi dans un monde fait de magie et de merveilleux. Mais quand le jeune garçon découvre que leur propriétaire, un sorcier du nom d'Isaac Izar, pourrait déclencher la fin du monde, une course contre la montre s'engage pour empêcher que ce plan maléfique n'aboutisse. Il y a Jack Black, il y a des chances que je donne une chance à ce film-là juste pour ça.
Dans la particulier.
La vie en soi, version originale de Life Itself, drame romantique américain réalisé par Dan Fogelman, mettant en vedette Olivia Cooke, Oscar Isaac, Olivia Wilde, Samuel L. Jackson, Mandy Patinkin et Antonio Banderas. Beaucoup de beaux noms dans ce film-là quand même, là, je veux dire. Oscar Isaac, tout qu'un homme. Une histoire d'amour multigénérationnelle qui s'étend sur plusieurs décennies et pays, oups, mon intérêt vient de descendre, des rues de New York à l'Espagne et concerne des personnes liées par un couple et par un seul et même événement. Définitivement perdu tout mon intérêt. Mais, c'est correct, ça a l'air bon pour les gens.
Ça monte dans le mien progressivement.
Mais c'est drame romantique, fait qu'il faut que t'aimes ça. Puis c'est, moi, c'est...
En fait, c'est le réalisateur d'une série que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle « This Is Us ». Que je vous avais parlé à un moment donné, j'avais très hâte que ce film-là sorte, donc je...
OK, parce que tu l'attendais avec impatience, là,
oui,
c'était
oui,
pas...
Oui, parce que c'est la série... Tu te souviens, Jim, je t'avais même montré le premier épisode à cause réalisé, scripté.
Oui, c'est intéressant.
Il y a une façon vraiment intéressante de raconter des histoires, en fait. Beaucoup de... On se promène beaucoup dans le temps, donc j'avais très hâte de voir comment il amènerait ça au niveau d'un long métrage, en fait, contrairement à une série télévisée. Donc, voilà.
Excellent. À considérer... C'est ça pour cette semaine.
Écoute, Louis, c'est ça pour un méchant bout, dans ton cas, tu nous quittes.
Je vous quitte à l'instant. La vie m'appelle ailleurs et j'ai des décisions qui ont été prises qui m'amènent à devoir quitter la direction de Cinébrunch. Je vais m'aligner vers de nouveaux épisodes de ma vie et de nouvelles rencontres cinématographiques tout seul de mon bar. J'ai apprécié énormément mon temps avec vous, chers collègues. J'ai réussi à voir des films extraordinaires, entre autres Le problème d'infiltration et Le problème d'infiltration.
Et Trépas 3.
Mais pas des films extraordinaires comme Trépas 3 ou Un justicier dans la ville.
Ouais.
Également, j'ai vu des films qui m'ont fait rire malgré tout, comme Mon petit poney, le film.
Voilà. Tu seras toujours associé à Mon petit poney, le film pour nous, Louis.
Je sais. Et ça, et les films d'action malaisiens bizarres.
Oui.
Qui d'autre? Oui, je sais. Mon collègue qui m'a fait découvrir ces films-là est maintenant rendu au Caire. Fait que ça donne une idée de quel point je réécouterai pas la suite bientôt.
Voilà.
Oui.
Ben merci pour ta participation. C'était fort agréable.
Je voulais vous remercier de m'avoir donné la chance parce que ceux et celles qui connaissent le projet le savent. Ben, ceux et celles qui ne connaissent pas le projet ne savent peut-être pas, mais je n'étais pas inclus à la base dans ce projet. C'est un projet de Mélina et Jim seulement. Puis en fait, ouais, mais on a personne pour aller chercher les films d'action ou pas. Puis j'ai fait, hey, j'aime ça, moi, les films d'action. Puis c'est pas poche, t'aimes les films français, Calvins. Fait que c'est grâce
c'est
à
la
mon
complémentarité,
amour de Rapide et Dangereux que j'ai eu le poste sur la radio. Et suite à un léger conflit de production que je me suis ramassé hôte de cette magnifique émission. J'aimerais donc vous remercier et j'aimerais remercier nos 8 auditeurs et auditrices de vous supporter encore aujourd'hui. C'est pas vrai, je fais des blagues. Ouais. Je remercie toute l'équipe de CFLX également qui m'a fait sentir comme chez moi dès le premier épisode. Et je vous souhaite bon entendeur. Salut!
On espère bien te revoir de façon spontanée, sporadique.
Ponctuelle.
Occasionnelle, venir faire des petits tours.
Et puis s'en vont. Oui, ben, peut-être pour des segments, pour des moments, pour des films d'action, de vous trouver personne qui a envie d'aller les voir.
Voilà. On va penser à toi tout de suite.
Yes.
Merci beaucoup, Louis.
Merci, Louis. Pour nos auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle formule.
Absolument, à découvrir.
Bref, bonne semaine.
Bonne semaine, merci.